Il y a une bombe qui est tombée hier sur le milieu des affaires canadiens. Donald Trump qui a annoncé une hausse majeure des droits de douane du Canada et du Mexique. À partir de janvier, le janvier 2025, on parle d'une hausse des tarifs à 25 %. Est-ce que c'est encore une fois Donald Trump qui exagère ses déclarations, ses annonces? Est-ce qu'il jappe fort, mais s'attend à beaucoup moins? Comment ça va affecter l'économie au Canada aussi? On va jaser de tout ça avec le vulgarisateur d'actualité, l'ami Farnel Morissette, qui est en studio avec nous. Farnel, bon matin, bon mardi.
Merci, bon mardi.
On se le disait tantôt, il n'est même pas officiellement encore en poste pour son deuxième mandat à la présidence des États-Unis. Et déjà, on en a en masse de sujets Donald Trump. Hein? C'est
et
parti.
Comme je disais tantôt, là, 4 ans. On est mieux de pas cette année trop vite parce que, en tout cas, si la dernière présidence Trump est un indicateur, on va avoir des rebondissements réguliers.
Farnel, avec sa dernière déclaration là, par rapport aux douanes, autant canadiennes que mexicaines, là, est-ce que c'est Donald Trump qui exagère encore une fois une de ses déclarations et est-ce que c'est stratégique?
Là-dessus, je pense qu'il faut quand même faire un peu attention. J'ai vu le mot « bluff » utilisé dans certains éditoriaux ce matin. Un bluff, c'est quand t'as pas les cartes. Trump a les cartes.
Okay.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il veut les utiliser de cette façon-là? Je penserais pas. Je pense pas que c'est son objectif. Si on regarde, par exemple, là on a le bénéfice d'une première présidence Trump où on peut regarder c'était quoi, qu'est-ce qu'il faisait avant. Et puis on se rappelle, avant la renégociation de ce qui était anciennement l'ALENA, ce qui est devenu l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, Trump avait menacé de déchirer l'entente, de quitter complètement l'entente, de finir avec le libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce qui aurait été désastreux pour l'économie canadienne, l'économie mexicaine, et aussi, il faut le dire, moins désastreuse, mais quand même très mauvaise pour l'économie des États-Unis. La tactique de Trump, c'est d'arriver avec des gros sabots, faire des énormes déclarations. Puis ça, c'est pas juste en économie. Ça a été sa politique aussi avec la Corée du Nord, par exemple, où il a menacé il est allé jusqu'aux menaces nucléaires par rapport à ça, pour enfin arriver à quand même une entente de paix qui a fait avancer les relations entre la Corée du Nord et le reste du monde. Alors, probablement que c'est ça son intention. Il commence en faisant des énormes déclarations qui sont extrêmement favorables à sa base. Sa base aime beaucoup ça. Le Canada est obligé de réagir de façon très forte. On a vu toutes les réactions des premiers ministres ce matin disant « Oui, oui, absolument, qu'est-ce que vous voulez, M. Trump? Oui, monsieur. » Et puis après ça, il peut se tourner de bord, dire à sa base « Regardez comment je suis efficace. Je suis même pas président encore. » Puis les pays voisins sont déjà en train de promettre de renforcer les frontières.
Bien, justement, on réagit comment, si on est le Canada? Est-ce qu'on a réagi de la bonne façon ou on aurait dû, puis là, je vais faire un comparatif boiteux, mais tu vas comprendre, t'sais. Quand un enfant fait la crise du bacon, soit que tu interviens ou que tu fais de l'ignorance intentionnelle. Est-ce qu'on aurait dû ignorer ce commentaire-là de Donald Trump? Ou c'est bon qu'on réagisse fortement, qu'on dise « Oui, 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 inquiétez-vous pas, M. Trump, on est là, on est là. »
L'image de l'enfant qui fait la crise du bacon, je pense, est assez parlante parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne comme image quand on a un rapport de force favorable avec l'enfant. Quand on est son parent, on peut le ramasser et dire bah, « tu t'en vas dans l'auto, là, on peut prendre cette analogie-là. » La réalité, c'est que c'est plus comme si t'es pogné dans une petite caverne avec un ours qui décide de faire la crise de bacon. C'est bien beau de dire « Non, 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 on va pas se faire piler dessus, puis non, on va protéger notre intégrité nationale. » Si l'ours décide qu'il veut quelque chose, tu y donnes. Puis là-dessus, que ce soit Trump, que ce soit Biden, je veux dire, ça reste à peu près quand même fondamentalement le cas. Les États-Unis font toujours des demandes envers le Canada, envers le Mexique, ce qui est normal et raisonnable. On est voisins. C'est juste que, bon, ben, normalement, ça se fait de façon diplomatique par des canaux, disons, un peu plus cachés du public pour qu'on puisse garder la face et l'honneur. Trump, il nous fait pas ce cadeau-là.
Non, puis on a beau en penser ce qu'on veut, puis ça a beau être possiblement désastreux pour le Canada. Mais pour Trump, c'est un coup de maître, ce qu'il a fait hier de justement montrer que c'est lui qui avait le pouvoir, puis que là, tout le monde est à genoux un matin en disant qu'il faut réagir. Puis pour lui, c'est un gros coup.
C'est un énorme coup. Imaginez ça, là. Il n'est même pas encore président. Présentement, officiellement, il n'y a aucun pouvoir constitutionnel. Mais avec un message de Truth Social, il est capable d'avoir des réactions en dedans d'une heure. du bureau du premier ministre du Canada, de tous les premiers ministres des provinces, disant « Oui, 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 absolument, vous avez raison, M. Trump, monsieur le président élu d'un pays voisin, nous allons tout faire pour pouvoir combler la situation que vous avez demandée. » Même si on ne sait pas encore c'est quoi, on ne sait pas encore c'est quoi exactement les attentes. Je veux dire, le barème lié au tarif est quand même relativement flou, il peut en faire ce qu'il veut. Avec un message, être capable d'avoir cette réaction-là, c'est, comme on dit en anglais, un gros flex.
Farnell, selon Donald Trump, les frontières canadiennes, les frontières mexicaines devraient passoir pour crimes, drogues, immigrants illégaux. Sais-tu, moi, qui ai un parti pris ou qui connais pas assez la game quand je me dis on n'est pas des mêmes eaux, là, comparé ce qui se passe au Mexique et les gens criminels, drogues qui montent vers le nord ou nous vers le sud, c'est pas la même game pantoute?
Ben, je ne suis pas agent frontalier ni au Canada, à la frontière Canada-États-Unis, ni à la frontière Mexique-États-Unis, alors je ne pourrais pas vous le dire avec plus de statut que n'importe qui d'autre, mais c'est sûr que quand on parle, par exemple, de migrants clandestins, c'est pas la frontière avec le Canada le problème. En tout cas, ça ne l'a pas été majoritairement. Oui, il y a eu, je veux dire, le chemin Roxham allait des deux bords et va encore des deux bords, il faut dire, là, même si ça a été largement réglementé. Je pense que la crainte, c'est plus, chose qui vient du Canada, c'est probablement plus des drogues.
Ouais.
Et ça, c'est pas des drogues qui sont produites au Canada. Là, on parle pas, par exemple, de situations comme aux États-Unis où tu as les narcos qui font rentrer de la cocaïne, par exemple. C'est généralement des drogues qui sont importées d'ailleurs au monde.
Et là passe
par le Canada parce que c'est beaucoup plus facile rentrer au Canada pour après ça rentrer aux États-Unis que rentrer aux États-Unis directement. Je pense que c'est ça le nerf de ce que M. Trump veut aller chercher. Mais encore une fois, je veux dire à quel point c'est réel puis à quel point c'est je pense que le mot japper est quand même relativement bon, que c'est de la, on pourrait appeler ça quasiment un signalement de la vertu sur les frontières de M. Trump. Là je veux dire, ça c'est les services de renseignement qu'il faut vous dire, pas moi. Là.
Lors du premier mandat de Donald Trump, justement, on avait parlé de la fameuse entente, là, libre-échange entre Canada, Mexique et États-Unis. Puis bon, je vais déchirer l'entente, finalement, je le fais pas. Puis au niveau économique, ça a quand même bien été pour le Canada l'ère 4 ans Donald Trump. Là, est-ce qu'on s'en va dans la même mouvance ou on a raison d'être plus craintif?
On espère aller dans la même mouvance. Fondamentalement, une des choses qu'on a vues, encore une fois, de la première présidence Trump, c'est que c'est pas quelqu'un qui cherche absolument le conflit, la confrontation. C'est quelqu'un qui se montre très, très prêt à le faire. Et comme je disais, il y a les cartes pour le faire. Il faut prendre ça au sérieux.
Ah ben oui, clairement.
Mais que ça semble pas ça être son objectif. La renégociation a été dure de l'entente de libre-échange. Il y a eu des périodes où, par exemple, il y a eu des tarifs sur l'acier, des tarifs sur l'aluminium. Mm-hmm. Ça fait mal à l'industrie canadienne. Mais somme toute, on s'en sort relativement bien si le passé est garant du futur. Est-ce que ça va encore être ça? Je ne sais pas. La conjoncture politique est différente. On est dans un contexte beaucoup plus électoral maintenant qu'on l'était la dernière fois. On n'a pas un gouvernement canadien qui est très fort sur ses assises localement. Il va peut-être vouloir se montrer un peu plus fort, se montrer un peu plus résistant, ce qui pourrait rendre la relation plus difficile. Mais ça, c'est de la spéculation à l'avenir. Je veux dire, là-dessus, chacun peut en tirer son épingle.
À quel point ça serait désastreux, justement, une hausse de 25% des taxes douanières canadiennes pour les affaires de notre pays?
C'est très, très difficile de l'estimer parce que c'est pas compliqué. Là. Les exportateurs canadiennes vont très, très majoritairement aux États-Unis.
Ouais.
25% de tarifs, ça mettrait fin à presque tout, toutes ces importations-là très rapidement. C'est difficile d'évaluer, mais un peu de la même façon que c'est difficile d'évaluer les dommages d'un météorite qui frappe une ville.
Ouais.
On ne sait pas exactement ça va être quoi, mais on sait que ça va être très, très grave.
Wow! L'image est assez...
Je veux pas tomber dans l'alarmisme. Là, on s'entend que l'analogie est forte, mais l'enjeu il est quand même important.
On peut se servir de cette nouvelle-là aussi pour l'amener en politique fédérale dans le contexte actuel où, tu l'as dit, ça va pas bien pour le gouvernement Trudeau. À quel point les conservateurs, par exemple, pourraient s'en servir pour taper sur le clou que le gouvernement Trudeau est faible et pas capable de bien s'entendre avec les États-Unis, de bien gérer cette situation-là? Penses-tu que ça peut être très gagnant pour les conservateurs?
La balle est certainement dans leur camp. Le message de Trump est essentiellement un message d'appel à droit et ordre. C'est ce qu'il veut, c'est sécurité à la frontière, arrêter le transfert de drogue, arrêter les migrants clandestins. Ça, c'est des messages sur lesquels les conservateurs au niveau fédéral ont certainement eu un message beaucoup plus fort que ce qu'on a vu en concret et même dans les messages du gouvernement Trudeau actuel. actuel. Alors, s'ils veulent marteler là-dessus, ils peuvent, sauf que les conservateurs ont toujours le danger, d'après ça, de se faire taxer, d'être des pro-Trump, ce qui n'est pas très populaire auprès du Canada en général. Alors, c'est un épingle qui va être difficile, mauvais terme, ça va être difficile à faire l'équilibre. Ouais. Entre ces deux positions-là, entre vouloir être conciliant envers les États-Unis, mais pas s'ouvrir de la part du Parti conservateur à des attaques d'être des Trumpistes canadiens.
Quand on parle de Donald Trump depuis 4 ans, on parle également de démêler avec la justice. Oui. Donc, tu es avocat de formation, alors j'aimerais t'en parler. Là, on apprend qu'il n'y aura pas d'accusation finalement pour que ce soit l'assaut du Capitole du 6 janvier. Que ce soit les élections truquées en Géorgie, que ce soit pour les documents classés secrets retrouvés dans sa résidence en Floride. Est-ce que c'est normal, étant donné qu'il va être nommé président?
Il faut dissocier deux types d'actions judiciaires là-dessus. Les actions judiciaires fédérales qui sont intentées par le département de la justice des États-Unis, mm-hmm, et les actions en justice qui viennent des États, comme la Géorgie, par exemple. Officiellement, en Géorgie, c'est en suspens. Alors, c'est okay. Pas fini, c'est pas, on n'a pas terminé la cause, c'est juste qu'en attendant, vu qu'il y a toutes sortes de questions légales complexes en jeu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des recherches, qui sont en train de faire des débats à l'interne avant de décider si on veut continuer avec ces accusations-là ou pas.
Ça pourrait reprendre même s'il est président des États-Unis.
Ça pourrait, mais là-dessus, c'est, encore une fois, on est dans des terrains constitutionnels incertains et nébuleux. Mais c'est une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau fédéral, il y a depuis 1973 une politique interne au département de la justice comme de quoi un président en fonction ne peut pas être poursuivi par le département de la justice pour des affaires criminelles. Puis la raison pour ça, c'est que le département de la justice retire son autorité du président. Alors, ça devient constitutionnellement un peu contradictoire d'utiliser l'autorité du président pour poursuivre le président. Il y a un conflit d'intérêts évident, mais même plus loin que ça, philosophiquement, c'est pas clair d'où vient l'autorité pour le faire. Il y a aussi, depuis, encore une fois, les années 70, à peu près, une théorie comme de quoi la Constitution des États-Unis donne une certaine immunité au président, au moins en fonction, contre des poursuites criminelles, parce que l'autorité du président est dérivée directement de la Constitution des États-Unis. Donc, c'est la Constitution qui dit au président « Vous avez le droit de faire ça ». Et c'est aussi la Constitution qui donne aux États et au gouvernement fédéral le droit de faire des lois. Ce qui veut dire que l'autorité du président, au moins pour ses gestes constitutionnels, dérive d'une autorité supérieure que l'autorité des lois elle-même. Alors, tant que le président agit à l'intérieur de ses fonctions constitutionnelles, il serait immunisé contre les poursuites criminelles. Ça, c'était la théorie qui a été théorique jusqu'au 1er juillet de cette année, quand la Cour suprême a décidé, dans l'affaire Trump contre United States, qu'en effet, un président des États-Unis a une immunité criminelle complète pour ses gestes qui sont des gestes constitutionnels, a une immunité criminelle très large, mais pas complète pour les gestes qui sont délégués de pouvoir qui sont donnés au président par le Congrès, parce que ça, c'est des gestes qui viennent des lois, et il n'y a pas d'immunité pour des gestes qui sont non officiels. Mais c'est quoi un geste officiel, un geste non officiel? Ça, je veux dire, c'est très, très nouveau comme jurisprudence. On ne le sait pas encore. Peut-être que ça va être la Géorgie qui va continuer ses poursuites, et on va arriver à cette réponse-là. En théorie, ça se peut qu'à la fin du mandat de 4 ans de Donald Trump, le département de la justice reprenne.
C'est ce que j'allais te demander.
Mais rendu là, ça serait...
Mais rendu
là,
le délai va avoir
le délai va être énorme. Il
va s'être passé 8 ans quand même. Exactement. Entre les élections en Géorgie puis la fin du deuxième mandat de Donald Trump.
Oui, et puis vu que rendu là, Donald Trump sera constitutionnellement barré de se représenter aux élections, ça devient un peu inutile faire toute la poursuite. Alors, on va voir.
C'est drôle parce que c'était la question que j'allais te poser en terminant. Là, je trouvais ça pas mal simpliste comme pensée là, ou comme théorie, mais juste le mettre dans le tiroir pendant qu'il est président, puis dans 4 ans et quelques mois, quand il n'est plus président, il ne pourra plus l'être. On ressort ces histoires judiciaires-là.
C'est pas impossible, mais je pense que politiquement, c'est extrêmement improbable. Et puis, en bonne franquette, ça vaut pas la peine.
Fernel Morissette, toujours un plaisir quand tu passes nous voir. Tu le sais, on adore jaser de toutes sortes de sujets avec toi ici à Rage Against le matin. Sinon, entre-temps, on te suit vulgariser toutes sortes de sujets sur tes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous suggère fortement de suivre Farnell un petit peu partout sur les différentes plateformes. On s'en parle bientôt, mon ami. Je pense qu'on va en avoir bien en masse des sujets Trump au cours des prochaines années.
On n'en manquera pas, comme je disais, c'est pas le temps de cette année trop tôt.
Quelle heure? 8 heures, ben pile! Dans une quinzaine de minutes à peu près, Mathieu Bertrand du Rouge et Or sera avec nous, champion, de la Coupe Vanier. Restez là. Jusqu'à 10 heures.